le bulletin du handicap.
Bonjour, voici vos manchettes pour le bulletin du handicap du 30 juin 2016. Réadaptation physique, une grande réorganisation des services à Montréal. Le manque d'accessibilité de l'Assemblée législative du Manitoba dénoncé par un député. L'Ontario rajuste sa réforme des programmes pour personnes autistes et 7 paracyclistes québécois se rendront à Rio. Réadaptation physique, une grande réorganisation des services à Montréal, un article du Devoir. Le réaménagement des services de réadaptation physique à Montréal entraînera des bouleversements pour de nombreux patients. Après des mois de rumeurs et d'inquiétudes parmi patients et employés, le CIUSSS du Centre-Sud de Montréal a confirmé que 3 des 10 programmes du Centre de réadaptation Lucie Bruno seront transférés plus à l'ouest, à l'Institut Gingras-Lindsay. De plus, tous les services de l'Institut Raymond Devoir ou de VAR, qui s'adresse notamment à la clientèle sourde, malentendante et sourde aveugle, doivent déménager puisque la bâtisse de la rue Saint-Denis a été mise à vente. Nathalie Charbonneau, directrice adjointe du continuum en déficience physique au CIUSSS du Centre-Sud de Montréal, confirme que les programmes du Centre Lucie Bruno pour les blessés à la moelle épinière, les traumatisés crâniens et les blessés orthopédiques seront désormais entièrement offerts à Gingras-Lindsay. Ce sont 15 % des patients du centre qui seront touchés. Comme ces patients étaient souvent hospitalisés à Lindsay-Gingras avant d'être suivis en externe à Lucie Bruno, Mme Charbonneau estime que la décision était logique et permettra de suivre un certain continuum de soins. Les 18 lits du centre Lucie Bruno seront aussi fermés et seulement une dizaine seront ouverts à Gingras-Lindsay, reconnaît-elle. Le taux d'occupation était d'environ 50 % Avec les économies générées, nous allons pouvoir réinvestir dans les services, assure-t-elle. Par effet de domino, des espaces seront libérés pour accueillir certains des services de l'Institut Raymond Devoir qui doit quitter ses locaux actuels. D'autres services seront déménagés dans l'est de la ville, se radissant, dans des locaux que le réseau doit récupérer et qui sont actuellement occupés par des organismes communautaires. Ces multiples déménagements doivent se faire en 2017 et 2018. Il va y avoir des inconvénients, reconnaît Mme Charbonneau, mais nous cherchons des mesures atténuantes avec nos équipes. Le CIUSSS affirme avoir pris cette décision dans l'optique d'avoir le moins d'impact négatif possible pour les patients. « Nous avons sondé les gestionnaires, les intervenants et les usagers », explique Mme Charbonneau. « Pour chaque programme, nous avons regardé d'où venaient les patients, comment ils se déplaçaient pour atténuer les inconvénients. » Partiellement soulagée après avoir craint que la majorité des programmes soient évincés du Centre Lucie Bruno, Laurier Courtemanche n'en est pas moins préoccupé. Le président du syndicat des techniciens et professionnels de la santé et services sociaux du centre va venir les prochains mois avec appréhension. Environ 40 employés devront changer de milieu, évalue-t-il. Nous sommes aussi préoccupés par les distances que les patients devront parcourir. Les bouleversements sont encore plus importants pour les patients et employés de l'Institut Raymond Devoir, qui occupe des locaux plus que centenaires dans l'ancienne institution des sourdes-muettes. Les services seront dispersés sur 2 sites. C'est toute une histoire qu'on quitte, dit Alain Martel. Le président du syndicat du personnel de l'Institut affirme qu'au-delà des déménagements, les craintes concernent surtout la pérennité des services dans un contexte de compression budgétaire. Nous avions l'avantage d'être une petite entité qui n'avait jamais été fusionnée. Nous sommes maintenant dans une immense structure et dans tout ça, nous subissons des compressions depuis 5 ans, rappelle-t-il. Le député Stephen Fletcher estime que le manque d'accessibilité à l'Assemblée législative du Manitoba constitue un exemple flagrant de limitation de l'accès et porte atteinte à son privilège parlementaire. L'ancien député fédéral, qui a été élu à l'Assemblée provinciale le 19 avril 2016, se dit frustré de la lenteur des travaux entamés pour améliorer l'accessibilité de l'édifice. Il a déposé mardi une motion pour demander que les modifications nécessaires soient terminées avant la fin de l'année. Stephen Fletcher est devenu tétraplégique à l'âge de 23 ans à la suite d'un accident de la route et doit se déplacer en fauteuil roulant. Bien que certains aspects du palais législatif du Manitoba aient déjà été modifiés, d'autres endroits lui sont toujours inaccessibles. C'est notamment le cas de l'étage central de la Chambre des députés qui est en contrebas. M. Fletcher dit que cela l'empêche d'avoir accès à la partie la plus importante de la pièce où sont notamment réunis les greffiers, le premier ministre et la chef de l'opposition. C'est un exemple flagrant de limitation à l'accès, a déclaré M. Fletcher, ajoutant que cela l'empêchait d'effectuer des tâches associées à son poste. La motion du député progressiste conservateur a été appuyée par les leaders du gouvernement et de l'opposition à l'Assemblée. La présidente de la Chambre, Mirna Djerger, a pris la motion en délibéré. L'Ontario rajuste sa réforme des programmes pour personnes autistes. Le gouvernement ontarien rétablit finalement le financement pour l'intervention comportementale intensive, l'ICI, destinée aux enfants de 5 ans et plus qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme. Le gouvernement libéral avait dévoilé au printemps le nouveau programme ontarien des services en matière d'autisme qui intégrera les deux approches éducatives actuellement offertes, l'intervention comportementale intensive, l'ICI, et l'analyse comportementale appliquée, l'ACA. Or, dans le cadre de ce nouveau programme, l'intervention comportementale intensive ne devait plus être offerte qu'aux enfants de 2 à 4 ans. Selon les experts consultés par le gouvernement, il vaut mieux appliquer l'ICI à stade précis du développement de l'enfant. D'ici la mise en œuvre complète du nouveau programme prévu en 2018, les parents d'enfants de 5 ans et plus soudainement retirés de la liste d'attente pour l'approche ICI devaient toucher 8 000 $ pour obtenir ces soins privés. Or, des familles qui attendaient une place depuis 2 ou 3 ans soutenaient que cette somme ne servirait qu'à les défrayer pour quelques mois seulement au privé. Sans vouloir admettre que son gouvernement avait commis une erreur, le nouveau ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, Michael Cotto, a annoncé mardi que ces familles seraient maintenant remboursées pour tous les traitements d'ICI obtenus au privé en attendant la mise en œuvre complète du nouveau programme. Le gouvernement veut aussi accélérer la mise en œuvre du nouveau programme ontarien des services en matière d'autisme, avec un objectif maintenant fixé à juin 2017. Les enfants de 5 ans et plus qui bénéficiaient déjà de l'ICI lorsque le nouveau programme a été annoncé au printemps dernier continueront leur traitement, a précisé le ministre Cotto. Ces enfants passeront toutefois à l'autre approche éducative, l'analyse comportementale appliquée, soit l'ACA, après 6 mois, a-t-on indiqué au ministère. Deux semaines après la tombée de rideau sur les Jeux olympiques, ce sera le tour des Paralympiques de s'exécuter. Comme à chaque édition des Jeux paralympiques, le Canada dépêchera un important contingent à l'intérieur duquel le paracyclisme sera bien représenté. Parmi les paracyclistes sélectionnés pour représenter l'Unifolie, on compte 7 Québécois. Daniel Chalifour, Nicole Clermont, Marie-Ève Croteau, Jean-Michel Lachance, Marie-Claude Molnar, Charles Moreau et Audrey Lemieux. Les Québécois qui prendront part aux Jeux de Rio ont pour la plupart été médaillés lors d'épreuves de Coupe du monde ou aux championnats du monde au cours des 2 dernières années et ont donc d'excellentes chances de monter sur le podium à Rio. Rio sera une occasion unique pour les amateurs de sport de découvrir ces athlètes exceptionnels, a déclaré Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise de sport cycliste, la FQSC. En tandem, Daniel Chalifour en sera à une 3e participation paralympique. Celui qui fait maintenant équipe avec le pilote Jean-Michel Lachance a notamment remporté le bronze en poursuite lors des derniers championnats du monde sur piste. En vélo à main, les espoirs reposent sur Charles Morneau. Médaillé de bronze au contre-la-montre lors des derniers Jeux, Marie-Claude Molnar voudra certainement rééditer sa performance, voire monter sur une autre marche du podium. Pour Marie-Ève Croteau, sa participation à Rio sera l'occasion de tourner la page sur les Jeux de Londres, où elle n'a malheureusement pas pu prendre part aux différentes courses en raison d'une commotion cérébrale subie quelques semaines plus tôt. Bien qu'elle évolue en paracyclisme que depuis 2012, Nicole Clermont a rapidement progressé dans la discipline et sera donc à surveiller lors de ses premiers Jeux. Décorée d'or à l'issue de la course sur route disputée aux Jeux de Londres, l'Ontarienne Robbie Wilden, qui joint désormais ses efforts à ceux de la pilote québécoise Audrey Lemieux, voudra certainement s'illustrer de plus belle. Ça fait le tour du bulletin du handicap pour ce 30 juin. Si vous êtes un organisme, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles et activités au canalm@visevoix.com. Et ça arrive à la fin de ces 2 semaines de remplacement de Clotilde Seille pour moi à la barre des voies de service. Alors, vous retrouverez dès lundi prochain votre Clotilde. Sur ce, je vous souhaite un bon congé et à bientôt.